pense à ta vie, tout au bord d'un ruisseau, tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux.
Histoire d'eau dans le monde rural depuis 50 ans, une émission de Jacqueline Lebas, avec les témoignages de Charles Chambert, Fernand Debar, Paul Lagarrigue et Thierry Chambert. L'eau, c'est toute une histoire. Nous sommes allés à la rencontre de personnes vivant dans le monde rural pour nous expliquer certains circuits de l'eau depuis 50 ans.
Bonjour Monsieur Chambert. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu du circuit de l'eau. Et vous avez l'expérience des viviers, comment les anciens géraient l'eau. Et vous avez aussi des idées comment gérer l'eau actuellement dans l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous parler des viviers ?
Notre génération étant arrivée avec les périodes du tracteur et l'utilisation des pelles mécaniques et bulldozers, on s'est posé le problème de l'aménagement des prairies que nous avions, qui étaient irriguées par immersion à partir des viviers qui captaient l'eau de source. Et une fois qu'on a eu démoli ou nivelé le terrain et drainé cette eau vers les fonds de prairies naturelles, il nous est pensé que nous devions la garder dans le cadre de l'arc collinaire. Et c'est de là, vers les années 70-80, que nous avons initié les lacs collinaires et surtout nivelé de plus en plus les rigoles d'immersion des prairies naturelles.
Donc auparavant, les anciens, lorsqu'il y avait une source, ils avaient construit un vivier. Ce vivier était une réserve d'eau, oui. Et ensuite elle était répartie vers les cultures.
Vers l'herbe surtout. On commençait à irriguer au mois de mars pour faire pousser l'herbe pour la pâture pour les vaches, et puis à partir du 1er mai, on sortait les vaches, on re-irriguait pour faire pousser le foin. Et une fois qu'on avait fait pousser le foin, on recommençait à irriguer par immersion pour redonner de l'herbe aux vaches pendant l'été.
Qu'appelez-vous irriguer par immersion ?
Irriguer par immersion, c'est ouvrir la vanne du vivier et l'eau partait par la rigole. On faisait des dérives pour irriguer la prairie en plusieurs endroits.
Donc, avec l'apparition des gros tracteurs ?
C'est avec l'apparition de la traction, qu'on ne pouvait pas sauter avec le tracteur les rigoles, il fallait trouver une solution. Et de là où est arrivé en même temps la pelle mécanique, les bulles et tout ça, qu'on a nivelé et supprimé les viviers faisant des drains. Et c'est à la suite de ces drains qu'on a fait les lacs collinaires.
Alors expliquez-nous ce qu'est un lac collinaire.
Un lac collinaire, il y a deux lacs collinaires. Les lacs collinaires qui captent le bassin versant de l'eau pendant l'hiver, le bassin versant peut aller de 10 à 100 hectares, même plus, sans source. Et puis il peut y avoir les lacs collinaires qui sont en fond de vallée où les sources amènent le volume d'eau qui serait évaporé.
Donc ces lacs collinaires sont des réserves d'eau. Oui. Comment utilisez-vous ensuite ces réserves d'eau ?
Alors ces réserves d'eau sont utilisées à partir de motopompes, soit électriques, soit à partir conduites par un tracteur. L'objectif c'était pour arroser des maïs pour pâturer les vaches.
Est-ce qu'il y a d'autres cultures qui sont irriguées ?
Alors, aujourd'hui, on peut penser qu'on peut s'en servir pour arroser des luzernes ou autre matière, surtout des luzernes.
Comment vous pensez améliorer la gestion de l'eau dans les années futures ?
Je pense que ce travail qu'on fait, nos parents, les viviers, les lacs collinaires que nous avons fait, c'était une conduite de garder toute l'eau qui nous venait des sources et qui nous venait du ciel. Parce qu'en plus, souvent, l'eau des banquettes était déviée dans les prairies naturelles.
Qu'est-ce que vous appelez des banquettes ?
Ah, c'est l'eau des fossés.
Donc, si je comprends bien, vous pensez que les anciens avaient une agriculture raisonnée ?
Je pense que c'était une utilisation de toutes les ressources dont on disposait. Les anciens, et il fallait rien perdre. Est venu après ce que je vous ai dit, le nivellement des viviers, le drainage et les lacs collinaires. Les lacs collinaires aussi, c'était des objectifs de décanter l'eau lors des orages. Mais ça permet aussi d'envoyer, de décanter l'eau avant qu'elle arrive ici, comme on dit, l'eau elle va à Bordeaux.
La nettoyer en quelque sorte.
Et elle peut un peu nettoyer. Certes, c'est peut-être pas complet, mais c'est une partie du nettoyage.
Donc vous pensez qu'il faut chercher d'autres solutions pour garder
aménager,
l'eau,
améliorer les solutions.
D'accord.
Parce que vouloir trop chercher, on ne fait rien. Perfectionner ce qu'on a, on peut faire des choses.
Est-ce que vous pensez qu'il faut s'orienter vers des cultures qui utilisent moins d'eau ?
C'est l'ensemble des choses qui vous font l'économie. Ce n'est pas un truc plus que l'autre.
Donc c'est une... C'est plein de petites solutions et non pas une solution miracle.
Oui.
Monsieur Chambert, vous êtes à la retraite maintenant. Ce n'est pas pour autant que vous vous désintéressez de l'avenir de l'agriculture, de l'avenir de la gestion de l'eau. Expliquez-nous comment vous vivez tout ça.
Je pense qu'il faut bien être assis sur ce qu'on vit, sur ce d'où on vient, qui que ce soit.
Monsieur Chambert nous a expliqué ce que sont les viviers et les lacs collinaires. Cette eau était partagée. Monsieur Fernand Debar nous explique ses procédés.
Eh bien, on allait au ruisseau, il y avait des rigoles. Alors on faisait partir l'eau du ruisseau dans ces rigoles.
Oui.
Et qui était distribuée dans les prés. Plus il y avait de parcelles à irriguer sur la même rigole,
oui.
Alors l'eau elle était divisée à moitié journée, des fois de deux journées, jusqu'au dernier, et que tout le monde puisse passer dans la même semaine.
Donc vous étiez organisé, chacun son jour, pour
oui.
prendre
oui.
l'eau.
Oui, mais il y en avait beaucoup qui trichaient.
C'est normal.
Il y en avait beaucoup qui trichaient,
d'accord.
Oui.
Alors cette eau, elle partait dans les rigoles, et ensuite, elles allaient où ?
Eh bien, elles traversaient les prés, elles arrosaient les prés, et ça revenait de suite au ruisseau. Oui, parce que les prés qu'on faisait arroser, ils étaient tout le temps le long des ruisseaux. Et ça s'écoulait, l'eau elle passait dans les prés pour le mettre dans la fraîcheur. Et en même temps, elle revenait aussitôt au ruisseau.
Donc vous pratiquiez un arrosage par immersion.
Oui.
Entendu. Donc ça vous obligeait à partager les eaux,
oui.
Et à vous organiser. Hein. Alors, quand par exemple le Jaoul débordait, quand il y avait un gros orage, comment ça se passait ? Tout arrivait dans vos champs ?
Eh bien, c'est-à-dire, on est obligé de laisser faire.
Mm-hmm.
De laisser faire. Alors, le Jaoul, ça couvre les prés, l'eau, ça passe dans tous les prés, mais une fois l'eau passée, et après, on voit s'il y a des dégâts, et s'il y a des dégâts, on répare. Et voilà.
Donc, pour...
C'est le plus embêtant, c'est quand le Jaoul monte et que les foins ne sont pas coupés. Alors ça passe dans les foins, ça sable le foin, et alors c'est pas terrible.
D'accord, d'accord.
Maintenant, ça n'existe plus. Alors,
d'accord.
Il n'y a plus ces problèmes.
Donc maintenant, les prairies sont plus du tout irriguées ?
Ah non, pas du tout, non. Pas du tout. Pas du tout. Et maintenant, même le long du Jaoul, vous n'avez pas beaucoup de prés qui se fauchent. Ça ne se fausse plus. Moi, je sais qu'avant que Dominique soit ici, et bien, avant le gendre, moi, je faisais 70, 80 bottes là-bas. Et maintenant, ils n'y vont plus. Hein.
De téléphoner,
ben
oui.
Et premièrement, c'est du foin de... pas les choses.
C'est pas du bon foin.
Oui, c'est que de l'eau.
D'accord.
C'est que de l'eau.
D'accord.
Vous voyez maintenant ce qui se passe, qu'il y avait beaucoup de landes, des prés en pente comme ça,
oui.
Que nous on entretenait, oui. Mais qui ne sont pas mécanisables.
Mm-mm.
Et maintenant, la faucille, ça n'existe plus.
Mm-mm. Donc
on n'en trouve même plus dans le commerce.
Donc tout ça, c'était entretenu. Maintenant, ce n'est plus entretenu. Quelles sont les conséquences ?
Les conséquences, que la végétation avance. La végétation avance. Bon, ce qui est plat, il y a le bétail quand même qui y va.
Oui.
Mais ce qui est plat, ce sera toujours assez entretenu. Mais ce qui est en pente, ce qui n'est pas mécanisable, c'est abandonné.
Mm-hmm.
Ça s'abandonne progressivement.
D'accord. Donc il y a des plantes envahissantes qui poussent, il y a des genêts,
oui.
Il y a tout ça.
Il y a des genêts, il y a des roses.
Donc sur le Jaoul, il y avait des prises d'eau. Ensuite,
oui.
Il y a eu aussi des barrages.
Oui, mais il y a eu les barrages EDF,
oui.
Qui existent toujours.
D'accord.
Et que toujours les usines électriques, ça marche. Ça marche, ça tourne, mais ça tourne là, X temps oui. Encore.
Et elles tournent toute l'année ou...
Elles tournent tant qu'il y a de l'eau.
Tant qu'il y a
assez d'eau pour faire tourner les turbines. Parce que pour faire tourner les turbines, il faut un certain débit quand même d'eau.
Oui, oui.
Voilà.
Oui. Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur la gestion de l'eau maintenant ?
Eh bien, qu'il n'y a pas de l'eau comme autrefois, déjà.
Il y en a beaucoup moins ?
Ah oui, les ruisseaux autrefois, ça débitait beaucoup plus quand même.
Alors, ça débitait beaucoup plus ?
Les temps ont changé.
Oui, mais ça débitait beaucoup plus alors qu'on en prenait beaucoup plus. On prenait beaucoup plus d'eau dans ces ruisseaux.
Mais dans les ruisseaux, ce qu'on faisait arroser, c'était pas prendre de l'eau au ruisseau. C'était la faire passer dans les prés, ça revenait tout de suite au ruisseau.
Mm-mm.
Voilà, c'est un filtrage d'eau.
Oui.
C'était un filtrage d'eau. Moi, je me rappelle que sur Rio Clos, là même, il y avait une chaussée. Et il y avait 600 mètres de rigole pour arriver à un pré qui était en pente comme ça. J'ai jamais vu marcher, moi, ça. Mais il y a les vestiges,
vous. Oui.
Vestiges.
On faisait feu de tout bois.
Ah oui. Le moindre truc. C'est-à-dire que moi, je me rappelle que mon père allait pousser, chercher des vaches avec Blanc de Campel, c'était son oncle. Ils allaient à l'Essac. Et il redescendait les vaches et allait pour pousser les vaches. Lui. Et il a dit, ici c'était travaillé, mais sur une baraqueville, là, toutes ces baraques, il a dit, il n'y avait que déjeuner. Il n'y avait que déjeuner là. Et maintenant c'est la plaine et ici le travers s'est abandonné.
Ça a changé
totalement. Quand vous voyez des travers, le tas de murailles qu'il y a, moi j'admire ça. Vous diriez des escaliers.
Et l'avenir ?
Eh bien, l'avenir, ce qui est plat, ce travail, tout ce qui est mécanisable,
oui.
Ce travail-là,
oui.
Les travers vont s'abandonner, vont redevenir comme ils étaient autrefois.
En friche.
Et vous savez, ça avance vite. Parce que vous voulez, les jeunes, à la campagne, il n'y a plus de jeunes. Ou alors les jeunes qui s'installent... Ce qui est possible de faire avec des machines, c'est bon. Ce qui n'est pas possible, ils ne peuvent pas y arriver.
Oui, puis il faut que ça soit rentable aussi.
Et c'est plus rentable.
Garder l'eau était donc une préoccupation majeure. Mais parfois, cette eau restait dans les fonds de prairies. M. Paul Lagarrigue nous explique pourquoi cela était un problème et comment il était géré lorsqu'il était en activité. Bonjour Monsieur Paul Lagarrigue.
Bonjour.
Et vous, vous avez une expérience particulière au niveau de l'eau parce que vous en aviez trop dans certains de vos champs.
Oui, exactement. Oui.
Alors, expliquez-moi ce que vous avez fait. C'était quoi ? C'était des tourbières ?
C'était des tourbières dans les prairies naturelles.
Oui.
Qu'on a drainées pour enlever l'eau et qui sont devenues accessibles aux machines actuellement et à l'élevage aussi.
Donc, vous mettez vos bêtes et vous faites du foin aussi.
Et le foin. Et dans toutes les parcelles, on a aménagé des points d'eau pour qu'elles puissent boire. Et il y a de l'eau en permanence toute l'année.
C'était des parcelles qui, auparavant, n'étaient pas du tout cultivées.
Mais elles s'étaient utilisées quand même, avec les bêtes. Mais le machinisme était pratiquement interdit parce qu'on ne pouvait pas passer. C'était...
Et les bêtes, elles pouvaient...
Les bêtes circulaient quand même, mais ça faisait des traces de pieds qui restaient toute l'année et l'eau qui stagnait dans ces traces.
Alors, vous avez commencé à drainer vers quelle époque ?
Oh, dans les années 60, 70.
D'accord.
Environ, oui.
Donc là, il y avait déjà l'appel mécanique,
oui.
les tracteurs plus costauds, plus importants.
Il y avait le mécanisme qui avait débouché, oui. On faisait des emprunts à très long terme, pendant 30 ans, je pense, avec un petit intérêt. Et pratiquement tout le monde avait drainé tout ses prés. Il y avait des drains qui avaient été faits autrefois par nos anciens, manuellement. Mais ces drains étaient superficiels et ne drainaient pas suffisamment, si vous voulez.
Et ils étaient constitués comment, ces drains-là ?
Avec des morceaux de châtaignier, du bois de châtaignier qui étaient dressés de chaque côté des rigoles qu'on faisait,
oui.
Mais qui n'étaient pas suffisamment enfoncés. Ou alors des drains faits avec des pierres, carrément avec des pierres.
D'accord.
Ou également avec le drain en briques. Et c'était la seule chose qui était manufacturée dans le fond. Le reste, c'était naturel.
Alors, qu'est-ce que vous pensez maintenant du fait que on tend à garder les zones humides ? Est-ce que pour vous, c'est intéressant ou pas ?
Moi, de mon point de vue, je ne suis pas tellement d'accord. Mais c'est l'évolution.
Oui.
On ne peut pas aller contre l'évolution. Mais je ne vois pas l'intérêt à garder les zones humides qui seront perdues carrément aux ressources. On ne tirera plus de ressources à ces parcelles. Il n'y a pas de doute.
Est-ce que vous avez manqué d'eau à un moment donné ?
On en a manqué, mais c'est très ancien, dans les années, tout de suite après la guerre, 47, 48, 49, il y a eu une très grosse sécheresse. Pour les bêtes, il était un problème, il fallait aller les faire boire dans les ruisseaux. Il n'y avait pas encore l'eau de la ville. Et c'était un vrai problème pour ça. Il fallait faire des trous dans les tourbières pour essayer de récupérer une source. Et on allait chercher avec des seaux de l'eau pour alimenter les bêtes.
Et autour de chez vous, pour récupérer l'eau, pour la collecter, vous aviez quoi ? Vous aviez des puits ?
On avait des puits.
D'accord.
Chaque ferme avait son puits, pratiquement. Oui, dans toutes les maisons du village, il y avait un puits. Puis le village, autrefois, était beaucoup plus important. Alors, les maisons qui s'étaient rachetées avaient leur puits aussi. Ça fait qu'il y avait quand même une réserve dans les puits. Mais cette réserve a disparu dans ces années-là. Puis après, on a moins accusé le coup quand il y avait une sécheresse, parce que du moment qu'on avait l'eau de la ville, on était quand même alimenté. Voilà. Sinon, on a suivi l'évolution du temps. Et puis, il est devenu ce qu'il est. Je pense qu'il est bon maintenant. Ces zones humides qu'il faut protéger, il y a à boire et à manger, je pense.
En bas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommet, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est C'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide, le néon. C'est la pie qui chacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance à pas sûr, à pas long. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du fifarchon, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un joli bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est les cris d'un hibou, encore ensommeillé, la voiture rouillée. C'est la boue, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chalon qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de lui.
Les anciens nous ont renseignés sur leurs pratiques. Mais qu'en est-il maintenant ? Monsieur Thierry Chambert nous raconte son quotidien. Bonjour Thierry Chambert, vous êtes producteur laitier à Blaye. Est-ce que vous pouvez nous parler et nous indiquer comment vous gérez l'eau dans votre exploitation par rapport à vos cultures et par rapport à vos bêtes ? Vous avez, je crois, un lac collinaire, c'est ça ?
Voilà, oui, on a un petit plan d'eau, deux petits plans d'eau en l'occurrence, qui nous permettent d'arroser un petit peu de maïs.
Et ces plans d'eau, ils ont été faits il y a longtemps. C'est votre génération ou la génération d'avant qui a réalisé ces plans d'eau ?
Oh, ici, c'est... papa en avait fait un, nous l'avons agrandi. C'est ma génération, on va dire. Allez, mais ça aurait pu être la génération d'avant. Hein.
Oui.
C'est pas très vieux. Pas très vieux, ça a 25 ou 30 ans.
Ces lacs collinaires vous permettent d'arroser quelle culture ?
Ici, on arrose un petit peu de maïs. Parce que le maïs correspond plutôt bien à l'alimentation des vaches laitières, que c'est une plante d'été, et que parce que c'est une plante d'été, elle souffre assez facilement de manque d'eau l'été.
Les autres cultures ?
Non, on n'irrigue pas les autres cultures. Non. Je ne sais pas si vous pensez aux prairies, mais irriguer une prairie est, je crois, un non-sens économique. À la limite, irriguer un petit carré de luzerne, la luzerne répond bien, mais sorti de là... Et quant aux céréales, bien souvent, les céréales ne souffrent pas trop ici du stress hydrique.
Au niveau des bêtes, comment vous procédez ? Parce qu'il y a le nettoyage, bien sûr, le nettoyage des... Comment vous appelez ça ? Des étables ?
Nettoyage de stabulation, voilà. Nettoyage salle de traite. Oui. Salle de traite, surtout. Salle de traite, salle de traite et le matériel de traite.
Oui.
Il y a besoin de beaucoup d'eau, là, oui.
Beaucoup d'eau.
Mais la plupart des gens ont l'eau du réseau. Pour ce qui me concerne, j'ai la chance d'avoir une source qui me permet une bonne partie de l'année de m'affranchir du réseau. Après, il n'y a pas de secret, quoi. On ouvre le robinet, on utilise l'eau qui est nécessaire d'utiliser.
D'accord. Alors, au niveau des cultures, vous faites du maïs. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire moins de maïs pour utiliser moins d'eau ? Ou est-ce que là, vous fonctionnez bien avec vos lacs collinaires ?
Jusqu'à présent, le peu de maïs que nous faisons, nous arrivons à l'irriguer avec le volume d'eau que nous avons. Pour être très sincère, je vois votre question et derrière votre question, le discours de quelques-uns aujourd'hui qui nous invitent à chercher des plantes moins gourmandes en eau, s'il y en a... Je pense que s'il y avait une solution, s'il y avait une alternative, il y avait une lurette que les paysans l'auraient sauté dessus, entre guillemets.
D'accord. Est-ce que vous avez l'impression qu'il pleut moins, que les saisons sont plus sèches ? Est-ce que vous avez des signes que les nappes phréatiques baissent ?
Je pense que pour pouvoir évoquer ou avoir de telles considérations, il faut être extraordinairement vieux. Je me sens extraordinairement jeune.
J'estime... Vous avez bien raison.
J'estime ne pas avoir le vécu nécessaire. Non, plus sérieusement, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a suffisamment de recul et suffisamment de sites ou de relais météo pour nous dire si oui ou moins, si oui ou non, il pleut plus ou moins. À mon échelle, ce qui est sûr, c'est que voilà, on a des années sèches. Celle-ci en est une, en tout cas pour l'été. Oui. On a des années très arrosées. L'an passé a été une année extraordinairement arrosée. Et je pense une année, en tout cas de ce point de vue-là, il faut s'en souvenir. Par rapport à 2014, dire que les années sont plus sèches, oui. c'est curieux. En même temps, oui, je sais pas.
Alors, l'irrigation, est-ce que ça vous coûte quelque chose?
Ah oui, l'irrigation, c'est pas... On n'irrigue pas par plaisir. On balance pas de l'eau pour le plaisir de balancer de l'eau. Ça coûte d'abord, c'est un investissement. Quand vous avez fait des plans d'eau, ils ont coûté. Après, le matériel d'irrigation coûte de l'argent, comme n'importe quel autre matériel. Il faut une pompe, faut un enrouleur, ou faut des tuyaux. Ça coûte en fonctionnement. Oui. Si vous avez une pompe diesel, c'est du carburant. Si vous avez quelque chose d'électrique, c'est de l'électricité. Et puis ça coûte un travail. Ce sont des heures de main-d'œuvre, de manipulation de tuyaux, de déplacer les enrouleurs. Oui. C'est pour cela que quand vous attirez mon attention sur le fait qu'il pourrait y avoir ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions que le maïs, par exemple, j'aime bien vous répondre. S'il y en avait une, ça se saurait. Je pense que les agriculteurs auraient été suffisamment intelligents pour le découvrir. Et si on pouvait s'affranchir de tout ce bazar, je pense que les paysans le feraient depuis longtemps, non aussi. Mais c'est sûr que si on trouve mieux que le maïs et moins gourmand en eau, je pense que les agriculteurs, les éleveurs adhéreront sans difficulté, en tout cas je le pense.
De ses rencontres avec Charles Chambert, Fernand Debar, Paul Lagarrigue et Thierry Chambert, il apparaît que la gestion de l'eau est une préoccupation majeure. Les personnes rencontrées ont toujours eu à cœur d'utiliser la ressource au mieux sans la dilapider, car récupérer l'eau et l'utiliser a un coût important, tant en matériel qu'en heures de travail. Autour de Rieux-Pérou, il n'y a pas de culture intensive. Ce sont des cultures qui permettent de nourrir au mieux le bétail. Les personnes qui ont témoigné dans ce reportage ont exprimé leur désir de faire leur métier avec bon sens, en respectant au mieux la ressource en eau, tout en tirant naturellement un revenu de leur travail. Un grand merci à ces quatre personnes qui ont accepté d'échanger avec moi sur la gestion de l'eau depuis une cinquantaine d'années. C'était « Histoire d'eau dans le monde rural depuis 50 ans », une émission de Jacqueline Lebas.